sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et je salue d'ailleurs son président-directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors, on a encore un invité en studio qu'on va présenter dans quelques instants, mais avant de le faire et avant de donner le micro pour ça, ben, on va quand même rappeler aux gens, si on veut poser des questions, c'est très facile, il suffit d'aller tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et cliquez sur « Poser vos questions ». Ou sinon, on peut le faire par texto, par téléphone, 819-519-9050, 819-519-9050. Et avant de présenter notre invité, comme on le fait à chaque semaine, Donald, on va revenir sur les sujets d'actualité. D'abord, on a appris quand même l'arrivée d'une nouvelle entreprise au pied de la filière batterie dans le parc PME de la ville de Bécancour. C'est un fournisseur de solutions d'automatisation. Contrôle Laurentine, peux-tu nous en parler quelque peu?
C'est un beau projet. Donc, il commence la construction. Parc PME de la ville qui est inclus dans le territoire de la Société du Parc. Donc, pour les gens, c'est un peu la section ouest là, qui est plus près du Shell, près de l'hôtel de ville. Mais donc, c'est vraiment une entreprise de service qui se positionne à Bécancour. Donc, le fait que des gros joueurs, il y avait déjà des gros joueurs, mais le fait qu'ils s'en ajoutent d'autres, ça provoque d'autres investissements de ce type-là. Donc, c'est très positif.
Puis on parle d'un investissement, dans ce cas-là, de 7 millions de dollars.
Oui, c'est quand même substantiel. Évidemment, on entend des trucs de centaines de millions puis de milliards, mais c'est quand même des beaux projets. Là, de
puis, déjà, une entreprise impliquée dans le domaine de la batterie, entre autres, Nemaska Lithium, comme ça a été mentionné dans les médias.
Là. Effectivement.
Aussi, autre bonne nouvelle, c'est que Pursfera, qu'on a d'ailleurs reçu dans les émissions ici, Pursfera qui bénéficie d'une aide financière d'Investissement Québec pour améliorer les équipements existants, etc. Bon, 2,5 millions de la part d'Investissement Québec, mais le projet est de 5 millions. Mais Pursfera, c'est dans votre cours dorénavant, ça. Hein?
Oui, Pursfera sont installés dans les bureaux de la PRAD qui ont été acquis en 2023. Donc, ils sont un locataire d'un bâtiment qui appartient à la Société du Parc. Et effectivement, ils sont venus ici. Puis c'est vraiment une belle entreprise, technologie verte, récupération des gaz réfrigérants, le frigo et tout ça. Et puis, c'est vraiment, l'entreprise va très bien. Donc, le projet, c'est pour améliorer leurs équipements puis tenter d'améliorer leur productivité. Fait que pour moi, c'est positif. Là.
Puis peut-être dernier clin d'œil au niveau de l'actualité. Pas plus tard que ce matin, je pense qu'il y a un lancement de balado qui implique la SPIB.
Oui, donc les auditeurs ici ont eu la chance d'entendre Karim Zaghib. On l'avait reçu autour du mois de novembre. Et puis Karim est un spécialiste dans le domaine de la batterie. On avait fait l'émission ici, mais on a cru bon vraiment faire des balados. Donc sur Bécancour, raconte-moi l'énergie d'ici, il y a un épisode. L'épisode 5, c'est un peu de démystifier la batterie, ce qui entoure la batterie. Puis par la suite, l'épisode 6, c'est vraiment les perspectives. Donc, moi, je développe ce parc industriel-là. Je contribue avec mon équipe à développer tout ça, mais je ne peux pas être un spécialiste de tout ce qui s'y passe. Et puis d'avoir la chance d'avoir Karim Zaghib qui vient nous expliquer tout ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça l'aide à mettre en perspective les choses et à comprendre vraiment comment Bécancour, comment le Québec se positionne dans tout ce qui se passe à travers le monde.
Puis encore ce midi, Donald, on a un invité en studio et je te laisse le soin de nous le présenter.
Oui, donc quelqu'un qui a roulé sa bosse longtemps dans le privé, mais qui est arrivé dans un autre rôle. Donc c'est Alain Lemieux, directeur général de la Vallée de la Transition énergétique, qu'on va appeler pendant l'émission la VTE. Mm-hmm. Donc bonjour Alain, merci d'être là.
Bien, merci à vous pour l'invitation.
Parce qu'effectivement, on entend parler beaucoup de la VTE depuis déjà au moins un an et plus, mais on veut voir avec Alain ce midi, puis on va se tutoyer parce qu'on se connaît très bien tous les trois. Mais on va démystifier c'est quoi la vallée, mais c'est quoi d'abord une zone d'innovation? Peut-être Alain, parle-nous, c'est quoi une zone d'innovation dans les faits?
Bien, dans les faits, c'est une initiative qui a vu le jour par l'ambition d'un gouvernement de créer un univers, de rassembler dans un faire ensemble plusieurs organisations qui pourraient porter, entre autres, le sujet de la transition énergétique. On a le bonheur de la réaliser ici, dans le centre du Québec, et inévitablement en Mauricie, avec trois villes porteuses du projet, Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour. Et c'est de réunir dans cet univers-là des entreprises, des industriels, des chercheurs, tout le milieu académique, là, de venir justement porter un potentiel de valoriser des innovations, Le but, c'est de créer ou de valoriser ces potentiels-là à partir d'une idée là, maîtresse de quelqu'un. Ben, comment on sera en mesure de l'aider ou de l'accompagner dans l'ensemble de l'œuvre d'une transition énergétique. On veut augmenter une commercialisation à travers ça. On veut inévitablement avoir une portée internationale. On parle d'exportation. On veut attirer des investissements au cœur de l'ensemble d'une zone d'innovation. On veut rendre accessible aussi des univers, ça veut dire des infrastructures, des équipements que monsieur, madame, tout le monde ou certains entrepreneurs ou, je dirais, initiateurs d'innovation ne seraient pas en mesure de se payer. Fait qu'on on est en mesure de cartographier présentement quels seront ces besoins-là pour voir apparaître éventuellement des centres d'innovation et on rendra absolument accepter tout ça. Puis on parle aussi d'attractivité de talent. On parle d'entrepreneurs, d'entreprises qui viendraient ici, des donneurs d'ordre, des chercheurs d'ailleurs. Puis le but de tout ça, c'est de créer une richesse collective. On parlait, Donald, souvent du faire ensemble. Mm-hmm. Comment on peut ensemble faire en sorte qu'on aura une économie plus forte, entre autres sur une impulsion de transition énergétique, avoir une influence très positive sur le soutien, entre autres, des services sociaux, parce qu'on a de l'éducation et on a de la santé à tenir en compte. Puis pour ça, mais il faut créer de la richesse. Je terminerai en vous disant que je pense que la transition énergétique est un sujet de l'heure puis qu'on peut absolument bien faire les choses.
Parce qu'effectivement, on parle d'une zone d'innovation pour notre région, mais elle est dédiée à la transition énergétique. Donc ça, c'est notre particularité, là.
Absolument. Puis la transition énergétique, c'est pas genre... excusez l'anglicisme, de mettre une switch à off pour la mettre à on. Fait qu'il y a tout un processus, justement, pour se rendre à une transition énergétique, puis espérons-le au passage de décarboner, entre autres, notre économie. On a trois sujets, nous, au cœur de la vallée de la transition énergétique, c'est la filière batterie. Inévitablement, Bécancour est très bien positionné pour en voir l'impact, puis voir des projets se réaliser. Il y a tout le projet de l'électrification. Oui, les batteries dans des véhicules, mais il y a aussi l'électrification pour des batteries qui pourraient accumuler de l'énergie pour la rendre disponible sur des réseaux par la suite. Il y a des batteries, il y en a dans bien des applications. La décarbonation, l'hydrogène, comment on réduit des émissions de gaz à effet de serre, comment on peut valoriser, entre autres, potentiellement, le carbone. Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'on l'enfouit, le carbone, ou on peut le valoriser dans des choses intéressantes? Fait qu'on est beaucoup sur ces sujets-là. Vous savez, la transition, je le disais tout à l'heure, une switch à off pour une switch à on, mais si on utilise inévitablement le mot transition, c'est qu'on veut potentiellement... je dirais, c'est l'abandon d'un progressif dans les activités humaines, de l'utilisation de l'énergie issue du combustible. Comment réduire l'utilisation des combustibles fossiles au profit d'une énergie qui est beaucoup plus propre? Ça veut dire sûrement abandonner quelque chose, mais de le faire dans une transition. C'est pas si évident que ça. Non. Il y a tout un modèle économique qui est bâti aussi sur l'énergie fossile. Fait comment on arrivera à tout ça? Fait qu'on a un mandat, nous, à la vallée de la transition énergétique, c'est d'appuyer les initiatives qui nous porteraient vers cette transition.
Donald,
transition énergétique, on parle de ça, c'est comme on amène ça, puis comme on a tous l'âge qu'on a, c'est quand même nouveau, mais si on reculait il n'y a pas si longtemps, il y en a eu des transitions énergétiques, là, c'est pas la première, et puis on va en nommer une récente, là, dans les villes, il y avait beaucoup, beaucoup de charbon... Et puis finalement, on a électrifié les maisons, les logements. Mm-hmm. Et moi, ma belle-mère, avec l'âge qu'elle a, elle a tout vécu ça, elle était en campagne. Fait que donc, c'était plus le poêle à bois, puis après ça, l'électricité est arrivée. Mais c'était comme une transition. Donc, mais là, on électrifiait des résidences. Là, ce qu'on veut faire, c'est, entre autres, il n'y a pas juste ça, mais électrifier les transports. Mm-hmm. Et puis aussi tenter de sortir l'énergie fossile de certains procédés industriels. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'y en a jamais eu de transition énergétique. Il y en a déjà eu, ça puis là, on en articule une nouvelle. Et puis juste faire un petit peu de millage. Pourquoi qu'un gars comme Alain se ramasse dans ce rôle-là? Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça par le passé, mais Alain, tu étais dans le privé, puis tu avais déjà un angle que tu étais très, très porté sur l'innovation et puis la collaboration avec les établissements de recherche et d'enseignement. T'sais, quand tu étais dans le privé, tu avais déjà cette tendance-là, ce réflexe-là. Fait que j'imagine que ça t'a bien servi pour obtenir le poste que tu as là.
Absolument.
Alain Lemieux, ça équivaut à avant-gardiste, parce que moi, ça fait longtemps que je connais Alain, parce que tu es un avant-gardiste dans ton domaine. Absolument. Puis, Effectivement, là, c'est pas étonnant que tu te retrouves à cette position-là. Ouais. Mais pourquoi donc cette zone d'innovation en transition énergétique se retrouve dans notre région? Parce que là, bon, on a évoqué peut-être Bécancour, mais il y a quand même trois pôles. Bon, les pôles électrification, etc. Mais quand même, c'est associé à des villes, trois villes. Donc,
absolument. Bien, je dirais, il y a sûrement une référence inévitable, historique.
Mm-hmm.
Bon, Shawinigan, la ville de l'énergie, inévitablement, Hydro-Québec. Tu sais, quand on regarde les barrages, tu sais, j'ai regardé un peu plus l'histoire plus profondément depuis que je suis arrivé à la transition énergétique, mais à Shawinigan, il y a déjà eu 7 barrages sur quelques kilomètres, puis ça a été, je pense, le lieu créateur d'une société d'État qu'on appelle aujourd'hui inévitablement Hydro-Québec. Fait qu'il y a une référence historique. Centre de recherche d'Hydro-Québec aussi à Shawinigan qui est là. Les premières batteries ont été inventées ou développées à partir de Shawinigan. Tu faisais référence à Karim
là,
tout à
Karim
l'heure.
Karim qui était actif pour Hydro-Québec, c'est un ancien d'Hydro-Québec.
Absolument. Fait que, donc, le Québec est déjà très bien positionné à ce sujet-là. Il y a le CNET à Shawinigan qui travaille beaucoup dans les aspects d'électrochimie, justement, parce qu'une batterie, c'est vivant. Ça vit avec des composantes, inévitablement, de minéraux critiques et stratégiques qui sont incorporés à l'intérieur de tout ça. Fait qu'elle vit. Fait que le CNET a beaucoup d'expérience ou d'expertise par rapport à tout ça. Il y a Trois-Rivières, tu sais, la première industrialisation ici au Canada a été faite en 1730 avec les forges Saint-Maurice. Fait que du côté de l'industrialisation, le parc ici à Bécancour devient de plus en plus un parc important ici au Canada. La ville de Trois-Rivières s'est dotée d'une stratégie de décarbonation. Ils en ont fait la présentation il y a quelques semaines. Il y a des expertises scientifiques à l'UQTR, l'Institut de recherche.
Le savoir se passe de ce côté-là. Là.
Absolument. Il y a des choses vraiment intéressantes. La présence aussi d'entreprises drôlement intéressantes sur le territoire. On pourrait nommer à Marmène, à Trois-Rivières, qui joue un rôle clé, entre autres, pour des éoliennes, mais sur d'autres aspects de la transition énergétique. Bécancour, la présence inévitablement de la SPIB, du parc. Parc en devenir, ça, qui est vraiment impressionnant. Disponibilité d'infrastructures, tout ce que vous faites, donner à l'eau parc, les entreprises ou les industriels arrivent là, puis la trail est pas mal tracée pour qu'ils puissent s'installer. Puis il y a des accès au port, en eau profonde, stratégiquement pour Bécancour, Trois-Rivières. Il y a quelque chose de drôlement intéressant par rapport à tout ça. Puis lorsqu'on joint tout ça ensemble, Shawinigan, Trois-Rivières, Bécancour, il y avait tout un potentiel d'asseoir la vallée de la transition énergétique ici, dans le cœur de la Mauricie et du centre du Québec.
Donald?
Oui, puis d'un autre côté, c'est sûr que d'accueillir des usines dans un parc, c'est bien, mais d'avoir un concept de collaboration autour qui permet que ces usines-là puissent suivre l'évolution de la technologie et évoluer, c'est encore plus prometteur. Puis c'est pour moi, c'est un signe de pérennité qu'on se donne toutes les chances que les usines qui sont ici vont durer dans le temps. Parce que quand des investisseurs décident d'investir dans de la recherche appliquée ou recherche fondamentale, ben c'est un très, très bon signal. Et puis, il y en a plusieurs qui ont manifesté le désir de se joindre dans le mouvement de la VTE. Donc, au-delà des cheminées, il y aura des gens dans des écoles qui feront de la recherche et développement.
C'est intéressant parce que celui qui est directeur général de la VTE, c'est un petit gars du centre de la Mauricie.
Hein,
donc,
je suis né à Saint-Georges-de-Champlain.
Bon, donc, tu as vu toute cette évolution même dans toute ta vie là, de ce qui s'est passé en Mauricie et au centre de la Mauricie. Là.
Absolument. Puis j'ai d'ailleurs fait mes développements d'affaires technologiques toujours à partir de la région ici. On m'a toujours dit que je devais quitter la région, que normalement je devrais être dans des grands centres comme Montréal, Boston ou New York. Mais j'ai toujours tenu à faire mes développements à partir d'ici. Fait que j'ai jamais quitté la région. Fait que même si on a fait des choses à l'international avec mes projets privés, et ce projet-là me parlait parce qu'il fallait être un projet rassembleur au niveau de la Mauricie avec différents acteurs de développement économique, les villes, du milieu académique, de nos différentes instances gouvernementales, fédérales, provinciales, municipales, MRC. Puis donc, j'étais quand même assez bien positionné pour comprendre tout le potentiel et amener des gens dans le faire ensemble.
Donc, c'est vraiment intéressant, puis déjà rendu presque à la pause pour cette émission sur la vallée de la transition énergétique avec Alain Lemieux, le directeur général. On a déjà commencé à voir un petit peu c'est quoi une zone d'innovation, pourquoi la transition énergétique, pourquoi en région. Après la pause, on va voir c'est quoi, comment ça se bâtit tout ça et un petit peu les aspirations de la VTE avec Alain Lemieux, mais aussi Donald Olivier de la Société du parc industriel de Bécancour. On invite les gens à nous écrire, poser vos questions. Hein? Allez sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, cliquez sur « Poser vos questions » par texto, téléphone 819-519-9050, 819-519-9050. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions et on vous revient tout de suite après la pause.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Nous sommes de retour avec notre invité aujourd'hui, Alain Lemieux, directeur général de la Vallée de la Transition énergétique, mieux connu sous le nom de la VTE, aussi Donald Olivier de la Société du Parc industriel de Bécancour. Alors, Alain, bon, on a parlé évidemment, c'est quoi une zone d'innovation, Vallée de la Transition énergétique, c'est quoi la transition énergétique? Mm-hmm. Pourquoi notre région maintenant? Ben, parce que c'est pas si vieux que ça, la zone d'innovation, elle date de quand à peu près?
Bien, elle a été officiellement désignée au mois de mai 2023.
Donc, c'est pas si vieux que ça.
C'est pas si vieux que ça.
Donc, on est dans les premières années de la zone d'innovation, mais comment tout ça va se bâtir ou se bâtir au fil... c'est quoi votre plan de match? Moi aussi, on parle d'une maturité, on l'atteint à quel moment lorsqu'on est une zone d'innovation? Parce que c'est nouveau là, pour nous.
Bien, nous, on parle d'une prise de maturité sur environ 12 à 15 ans.
OK.
Fait qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir parce que moi, je suis arrivé quand même il y a 3 ans. Je vais fêter mon 3e anniversaire en juin prochain.
Bon.
Et donc, il y a eu déjà plusieurs étapes de franchie. D'abord et avant tout, il fallait quand même structurer ces démarches-là. Donc, il y a eu un conseil d'administration transitoire. Par la suite, on a quand même formé une gouvernance avec officiellement un conseil d'administration. Et là, on a dû s'attarder un peu plus ou s'apposer des questions. Quel pourrait être un modèle d'exécution, un modèle d'opération? Fait qu'on a commencé à faire ça. On m'avait remis un plan de développement qui disait des choses, mais il manquait beaucoup d'éléments structurants. Donc, il a fallu travailler inévitablement sur une planification stratégique, mm-hmm. qui mettra en lumière des enjeux, qui mettra en lumière 9 stratégies sur lesquelles aujourd'hui on peut tabler, sur lesquelles on a un plan d'action. Fait qu'il y a eu toutes sortes de démarches. On a fait des études, 3 grandes études sur 3 pôles. Donc, on a consulté des industriels, consulter des académiques, consulter différents acteurs clés d'innovation pour comprendre. Puis il fallait aussi aller voir qu'est-ce qui existait aussi au Québec, parce qu'il existe des univers d'innovation, entre autres, il y a des centres de recherche d'Hydro-Québec. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment nous, on pourrait être en complémentarité? C'est quoi l'Institut du véhicule innovant, entre autres, à Saint-Jérôme? Fait qu'on était allé consulter ces gens-là pour être en appropriation, en complémentarité pour définir nos terrains de jeu. On a fait tout ça, et là, on arrive à d'autres étapes importantes qui vont être justement de passer à des plans d'analyse technique et fonctionnelle pour structurer justement ces fameux univers-là d'infrastructure, la bâtisse, quel type d'équipement, puis quel serait le modèle d'affaires pour exécuter ou rendre pérenne ces univers-là. Fait qu'il y a différentes étapes qui ont été franchies.
Oui, puis Alain, quand tu parles du modèle d'affaires, juste que les gens comprennent bien qu'il pourrait y avoir des sommes investies du gouvernement, mais vraiment ce qui est souhaité, c'est que le privé s'implique.
Absolument.
Puis s'implique, on pourrait dire s'engage, parce que s'impliquer, pas juste te donner un chèque demain matin, mais sur un horizon de temps pour être sûr de la pérennité de tout ça. Ça fait que donc, ce que toi, tu recherches, c'est des joueurs sérieux qui vont s'engager avec des sommes substantielles sur un horizon de temps quand même assez long.
Exactement. Puis donc, on a procédé à une quête d'engagement du milieu industriel, des investisseurs potentiels, qui pourraient être propriétaires de ces centres d'innovation-là. Donc, on est allé chercher ces engagements-là et ils sont très crédibles et très sérieux. Ces engagements-là portent entre autres sur des bails, de réserver des espaces, sur quel type de sujet. Et si nous, on avait à offrir des services, quels seraient les services d'accompagnement ou inévitablement d'investissement qu'on pourrait mettre en place pour appuyer ces ambitions-là. Il y a des gens qui veulent venir utiliser des temps d'usage, pas nécessairement par un bail, mais dans des tempéraments périodiques. Fait qu'on avait à faire ça et de regarder aussi avec l'univers académique, les chercheurs champions, ils sont où? Est-ce qu'ils veulent venir dans ces univers-là pour travailler, collaborer avec l'industrie pour innover en transition énergétique?
Oui, Donald.
Puis peut-être juste pour que les gens comprennent bien, c'est que quand on parle de recherche appliquée, bon, tu sais qu'un chercheur qu'un laboratoire fasse des tests et puis on arrive à une solution en laboratoire, le saut est trop grand de passer du laboratoire à l'usine.
Mm-hmm.
Donc, pour Bécancour, les fameux espaces qu'on appelle les espaces mutualisés, ce serait d'avoir un endroit où est-ce que tu peux faire ça à grande échelle. Donc, tu ne traites pas des centaines de milliers de tonnes, mais tu traites quand même des tonnes au lieu des grammes ou des kilogrammes en laboratoire.
Exactement.
Et puis, c'est une façon de faire évoluer les connaissances, de faire tester ça par les spécialistes, mais à échelle quand même raisonnable pour, excusez le terme, là, dérisquer ou minimiser, réduire les risques des projets. S'assurer que les connaissances évoluent, mais avec des investissements qui font du sens. Fait que vraiment que les gens retiennent le laboratoire, les grammes, les kilogrammes, les centaines de milliers de tonnes, ça prend de quoi entre les deux? Et c'est entre autres ce que Alain va aider à couvrir.
Là. Est-ce que Absolument. C'est dans ce sens-là qu'on peut s'attendre à voir apparaître dans chacun des pôles les centres d'innovation? Est-ce que c'est dans cette optique-là?
Absolument. C'est okay. dans l'optique, justement, de à partir de justement d'un laboratoire, de je dirais, de certaines améliorations ou procédés chimiques, réactions chimiques. Ça peut fonctionner dans un laboratoire, mais comment on portera une mise à l'échelle, entre autres, dans Bécancour, comment sur l'ensemble des sujets de la batterie, de l'électrification, de la décarbonation, on jouera les différents jeux. Il y a aussi, on parle d'un parc industriel, comment décarboner le parc. Il y avait déjà des industriels qui étaient là. Moi, je peux vous dire qu'on adresse des sujets présentement pour les aider à se décarboner. C'est pas purement juste la filière batterie, mais il y a absolument d'autres enjeux sur lesquels on adresse au cœur de la vallée de la transition énergétique. Donc, il est souhaité ces centres d'innovation-là, ces lieux-là. C'est pour ça que je faisais référence tout tantôt au plan d'analyse technique et fonctionnelle. C'est la prochaine étape qu'on veut franchir. Et au terme de tout ça, là, il y aura vraiment un plan d'exécution, un plan formel d'architecture, d'ingénierie, de design de ces univers-là pour aller éventuellement vers des annonces qui nous permettront de construire ces centres d'innovation.
Donc, chaque pôle aura son centre d'innovation. Trois-Rivières, Shawinigan, Bécancour?
Absolument. Ouais. C'est l'ambition, c'est qu'il y ait un univers d'innovation dans chacune des trois villes.
L'importance du milieu de vie aussi dans une zone d'innovation. Alain, bon, c'est beau la recherche, c'est beau le développement économique, mais tout ça se fait dans un milieu de vie, puis je pense que même, vous avez même un comité milieu de vie à la VTE, mais
Absolument.
Comment on peut identifier cette priorité-là au niveau du milieu de vie, l'importance de ça?
Bien, on a deux grandes priorités chez nous. Il y a le milieu de vie, puis il y a le comité du développement durable et de la circularité, parce qu'il y a aussi des intrants ou des extrants qui se doivent d'être valorisés dans l'exécution. Mais je dirais que le milieu de vie, c'est l'élément clé. Parce que lorsqu'on crée une impulsion d'un potentiel, d'une zone d'innovation, bien, inévitablement, tout ça se fait avec des humains qui contribuent à l'innovation, mais des gens qui viennent travailler ou qui vont venir inévitablement vivre dans nos univers. Donc, au niveau démographique, bon, on le sait, là, à Bécancour, il y a des plans de développement qui s'exercent. C'est le cas aussi dans Shawinigan et Trois-Rivières. Fait que comment on se connecte? C'est quoi nos défis? C'est quoi les enjeux? Donc, à travers le comité du milieu de vie, on vient coordonner ou dynamiser des potentiels pour tenir en compte différents facteurs importants de ce que c'est vivre en ville ou vivre en région, là, parce que ça recoupe inévitablement des activités, la culture, le plein air. C'est pas juste de venir travailler,
mais parce qu'on devrait accueillir des travailleurs, parce que Absolument. Là, hein, Donald, dans le parc, déjà, on le voit, il y a beaucoup de travailleurs qui
des travailleurs
sont à la construction des usines, mais aussi qui vont venir travailler dans les usines.
Là. Oui, puis tu sais, ce qu'Alain aussi fait allusion à ce qu'amène, c'est bon, Shawinigan ont déjà annoncé des trucs, des chercheurs qui s'en viennent à Shawinigan, donc... C'est un peu ça, tu sais, on n'a même pas des chercheurs avec du fly-in, fly-out, là. T'sais, donc, on veut vraiment qu'ils prennent racine chez nous, puis ça prend un certain milieu de vie pour stimuler que ces gens-là puissent vouloir bouger là, dans une région. Là.
Exact. Fait qu'on parle avec des gens d'éducation, les écoles, on regarde la structure des programmes.
Ça demande beaucoup de concertation, hein, c'est beaucoup de
Absolument.
Concertation.
Ça revient au faire ensemble auquel on fait référence.
C'est ça, t'sais, parce que pour que les gens qui nous écoutent, mettons la VTE, qu'est-ce que c'est? C'est pas un bâtiment, c'est pas un lieu.
Un écosystème.
Je le résume des fois de dire c'est un concept de collaboration. C'est une façon de collaborer autant du privé, de l'entreprise, que de l'université, puis que toute la recherche au travers de tout ça. C'est un concept de comment mieux collaborer. Parce que des fois, on travaille très fort, mais on n'a pas les résultats attendus. Donc, comment on peut faire pour collaborer différemment, plus efficacement, puis avoir les mêmes résultats, des résultats supérieurs pour les mêmes efforts qu'on investit déjà?
En parlant de collaboration, Alain, il existe d'autres zones d'innovation. Donc, comment votre zone d'innovation collabore-t-elle avec les autres zones d'innovation au Québec?
Bien, très bonne question, Marc, parce que c'est hyper important. Il y a beaucoup d'éléments transversaux, entre autres, en lien avec la transition énergétique. On a besoin d'ordinateurs de puissance, donc on échange beaucoup avec le Quantique à Sherbrooke. Il y a la zone d'innovation aussi sur les semi-conducteurs, parce que quand on parle d'ordinateurs de puissance, inévitablement, ça prend des processeurs. Il y a donc des composantes électroniques dans tout ça.
Ça, c'est à Bromont, je crois.
Oui, c'est à Bromont. Puis il y a aussi la zone de l'aérospatiale, un avion en plein s'envole, ben, est-ce qu'on peut la faire voler avec peut-être avec un gaz qui est moins polluant? Est-ce que c'est un gaz plus bio? Fait qu'il y a différents éléments que l'on échange avec eux. Fait que nos communications sont vraiment intenses pour la collaboration, pour valoriser.
Il y a déjà des échanges entre les zones.
Absolument.
C'est pas à venir, c'est vraiment actuel.
Ça se fait régulièrement, okay, wow. Absolument. Puis ça fait partie de l'ambition du gouvernement, justement, de s'assurer que ces zones d'innovation-là peuvent aussi échanger sur des bons procédés, des bonnes façons de faire. Puis l'importance d'une zone d'innovation, c'est de bien valoriser nos potentiels puis de les exporter. Moi, je dis souvent qu'il faut sortir d'un syndrome de la jungle. On est toujours souvent impressionné par potentiellement un Américain ou je ne sais trop, quelqu'un d'autre sur la planète, mais on a des minéraux critiques et stratégiques. On a des énergies vertes et renouvelables comme on retrouve pas à un niveau comme on a ici. On a des talents, fait qu'il faut être en mesure de valoriser nos potentiels, entre autres à travers les univers des zones d'innovation. C'est ce que j'aime du modèle parce que les zones d'innovation, c'est pas juste une association, là. C'est un ancrage sur un territoire, c'est la valorisation de nos potentiels dans le faire ensemble, entre autres d'une transition énergétique, puis se positionner à l'international pour créer de la richesse.
Puis Bécancour s'inscrit, évidemment, l'ASPIB s'inscrit dans la dynamique de la zone d'innovation.
Ça s'inscrit dans ce sens-là, parce que avant que j'arrive, Pierre Duchamp, qui est le président du conseil d'administration, dirige aussi une entreprise à Bécancour. L'ASPIB était très, très impliqué dans les premières idées qui voyaient une zone d'innovation dans chacune des villes, ce qui a évolué pour le mieux plus large. Mais vraiment, nous, on voit ça d'un œil positif, puis tu sais, quand Alain a posé la question, est-ce qu'on pouvait les accueillir? Bien, la VTE, pour l'instant, votre siège social est à la Société du Parc.
Oui.
Donc, on partage des locaux avec eux parce qu'on veut les aider. On parlait de maturité tout à l'heure. T'sais, parfois, quand on commence, il faut mettre l'énergie au bon endroit, puis c'est pas nécessairement une bonne idée de dépenser des frais pour des loyers. Donc, nous, on accueille la VTE pour tenter de les aider à démarrer. Fait que donc, l'indice, savoir quand la VTE sera mature, ça sera quand ils auront leur propre adresse.
C'est ça. Oui, on est très virtuel, puis on squatte des locaux à ben des endroits dans les trois villes, entre autres, puis les gens nous accueillent à Brosseau.
Ça s'appelle l'agilité, hein?
Absolument. Ouais,
absolument. Et en parlant d'agilité, bon, on est déjà agile dans le temps parce qu'on est déjà rendu pratiquement à la fin de l'émission. Alors, écoute, on aurait pu faire une heure, deux heures sur la VTE. Mais on veut d'abord remercier Alain Lemieux d'être venu en studio pour nous parler de la vallée de la transition énergétique. Et Donald, peut-être je te laisserai le mot de la fin par rapport à notre invité d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui.
Oui, merci Alain, merci d'être venu l'expliquer. Ce concept-là qui n'est pas toujours facile, fait que merci. Puis évidemment, on collabore au quotidien quasiment ensemble, fait que donc merci pour tout ça.
Et merci la semaine prochaine, merci Alain, mais merci Donald. La semaine prochaine, on recevra Méranie Roy, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec. Je pense qu'on va parler d'économie et de l'impact économique de tout ça dans notre région. Alors, soyez des nôtres la semaine prochaine pour le Parc en 30 minutes avec Méranie Roy comme invité et, comme toujours, Donald Olivier de la Société du Parc pour répondre à vos questions. Alors là-dessus, passez une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain pour le Parc en 30 minutes.
Via. Voici ce que vous avez manqué dans Via le matin.
Hey, c'est plate, hein? T'sais, c'est pas tant le dévoilement de la...